alors, si vous voulez me suivre, on va aller dans Apocalypse au chapitre 8, à partir du verset 13, aller jusqu'à Apocalypse 9, jusqu'au verset 12, parce que c'est vraiment, ça va ensemble. Apocalypse chapitre 8, verset 13, aller jusqu'à 9, 12. Je regardai et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. De la fumée sortirent des sauterelles, qui se répandirent sur la terre. Et il leur fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fut dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Il leur fut donné non de les tuer, mais de les tourmenter pendant 5 mois. Et le tourment qu'elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion quand il pique un homme. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses, comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était comme un bruit de char à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des aiguillons, et c'est dans leur queue qu'était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant 5 mois. Elles avaient sur elles, comme roi, l'ange de l'abîme, nommé en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur est passé. Voici, il vient encore 2 malheurs après cela. Alors, je vais vous asseoir. Alors, aujourd'hui, je vais donner comme titre au sermon « La cinquième trompette annonce le premier malheur ». Celui causé par Satan et ses démons. Alors, on va regarder, il y a 4 grandes idées que je vois à l'intérieur de tout cela. Dans le verset 13, pourquoi on commençait au verset 8-13? C'est parce que dans le verset 13 du chapitre 8, il y a une annonce qui est faite qu'il y a 3 malheurs qui s'en viennent. Et à partir du verset 1 du chapitre 9, le premier malheur est décrit. Premier malheur. Autrement dit, il annonce 3 malheurs qui s'en viennent, et à partir du chapitre 9, verset 1, aller jusqu'à 12, il nous parle du premier malheur. Les 3 malheurs sont exprimés dans le verset 13 du chapitre 8. Le premier malheur, les versets 1 à 5, on pourrait dire que c'est le premier malheur exhibé. Exhibé, ça veut dire qui est montré, qu'on peut voir, qu'on peut. Et dans le verset 6 à 11, on pourrait dire que c'est le premier malheur qui est expliqué. Le Seigneur va nous donner plus de détails sur en quoi va consister le malheur parce qu'il compare, dans le fond, une horde de démons qui vont envahir la terre à des sauterelles. On va tout développer ces idées-là tantôt. Et le verset 6 à 11, donc c'est le premier malheur expliqué. Et dans le verset 12, c'est le premier malheur qui est exécuté. Pourquoi? Parce que le verset 12 nous dit que, quand on lit dans le verset 12, le premier malheur est passé. Donc, il est en train de dire, le premier malheur que Dieu annonce, il est passé. Et là, on va commencer à regarder en quoi consiste le premier malheur. Et je vous l'ai donné par le titre, c'est Dieu va commander, va commissionner les démons. Il va permettre que le puits de l'abîme, autrement dit, les démons puissent sortir et envahir la terre et causer des tourments aux hommes à un point tel sur leur corps et sur leurs âmes qu'ils vont désirer de mourir, mais ils n'auront pas le courage de se suicider et ils vont être obligés de subir tout cela. Alors, on voit des fois, tu sais, les Écritures nous parlent souvent de la bonté de Dieu, on n'a pas de misère avec ça. Mais des fois, les Écritures nous parlent aussi d'un autre aspect de Dieu, la sévérité de Dieu. Alors ici, il est en train de dire que cette sévérité-là va être envoyée sur tous les hommes de la terre non convertis, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Même s'ils l'ont entendu, ils s'acharnent dans leur péché, ils persévèrent dans leur rébellion. Alors Dieu leur envoie des moyens. Et une chose qu'on voit là-dedans aussi, parce que ça parle de 5 mois. Ça va être intense, mais ça va durer un temps limité. Qu'est-ce qu'on voit encore là-dedans? Encore la miséricorde de Dieu. Dieu envoie des jugements très sévères, mais il y a comme du temps qui est accordé aussi. Et on va voir que plus on développe et qu'on s'en va vers la fin, la 7e trompette, quand on va arriver à la 7e trompette, là, ça va être les sceaux de Dieu. Pas les sceaux, c'est-à-dire les jugements. On va voir que ça va devenir de plus en plus sévère. Alors, dans notre dernier sermon, on avait expliqué que le 7e sceau, on avait vu qu'il y avait 7 sceaux, et le 7e sceau ouvrait 7 trompettes. On avait vu, dans les leçons précédentes, que les 4 premières trompettes, c'était des jugements divins, mais sur la nature. La terre, la mer, les fleuves, les lacs et l'univers, l'étoile, la lune, le soleil. Donc, c'est tous des jugements qui sont extérieurs à l'homme. Ça ne veut pas dire que l'homme ne souffrira pas de ça. Il va souffrir, mais ça ne l'attaque pas personnellement sur son corps et sur son âme. Tandis que là, on voit un changement. Les 3 dernières trompettes, ce sont des jugements qui vont affecter l'homme directement. Pas son environnement. L'homme directement. On le voit ce matin, là. Quand que le Seigneur va permettre que les démons sortent, qui sont enfermés dans l'abîme, qui vont sortir, qui vont envahir la terre, comme une nuée de sauterelles. On va en parler tantôt. C'est épouvantable. Quand vous lisez un petit peu, qu'est-ce que c'est une nuée de sauterelles et quel ravage que ça faisait dans les pays, dans ces pays-là, à cette époque-là, et même encore aujourd'hui. Là. Mais on va, tout à l'heure, on va vous donner des détails sur la largeur, la longueur, et les désastres que ces choses-là amènent dans la nature. Il est en train de dire que les démons qui vont venir vont être aussi nombreux que les sauterelles quand ils font une attaque comme ça. Ça va être quelque chose, comme on dit. On n'est peut-être pas loin de ça. Alors, les 4 premières trompettes, c'est un groupe, c'est les jugements divins sur la nature et sur le système solaire et les étoiles. Mais c'est des jugements qui affectent pas la qualité de vie des hommes, mais ça les touche pas directement et spécifiquement. C'est très important de voir s'il y a vraiment 2 groupes dans les trompettes. Là, on tombe dans le 2e groupe, on tombe dans les jugements divins qui vont affecter l'homme directement. Alors, on va étudier aujourd'hui le premier grand malheur. Le premier grand malheur, la plupart des théologiens qui sont conservateurs voient dans cela une horde de démons qui vont être libérés et qui vont faire un ravage extraordinaire sur la terre. C'est pour ça qu'ils comparent à des sauterelles, parce qu'on va regarder ça un petit peu plus en détail tantôt. Alors, ils reçoivent de Dieu ce qu'on pourrait dire la commission. Quand on dit on commissionne quelqu'un ou on autorise, Dieu autorise l'ouverture du puits de l'abîme. Et là, les démons vont sortir comme une nuée de sauterelles. Et ils vont faire des ravages extraordinaires sur l'homme, sur leur corps et sur leur âme surtout. Quand tu dis que tu souffres au point que tu veux mourir, là, puis que comme le texte dit, la mort fuit loin d'eux. Alors, ils n'auront même pas le courage de se suicider. Mais la souffrance qui va leur être apportée par cette invasion de démons-là va être extrêmement grande. Si c'est intéressant, c'est que le nombre des démons qui est parlé dans le texte est si grand qu'il est comparé à une invasion innombrable de sauterelles destructrices. Tantôt, quand on arrive sur le passage des sauterelles, on va voir, et il y a un auteur que j'ai trouvé qui décrit cela, là, parce qu'il y en a qui sont allés en Orient, puis ont déjà vu ces choses-là. Nous, on ne connaît pas ça. On n'a jamais vu d'attaque de sauterelles, on ne connaît pas ça. Mais il y en a qui l'ont déjà vu, puis ils décrivent en détail. Vous allez voir quand on décrit ça. Et là, il est en train d'utiliser un phénomène naturel que le Seigneur permet qu'il arrive dans la nature, dans des endroits précis du globe, et il est en train de dire, ça va être comme ça, en nombre, mais des démons, qui vont sortir de l'abîme. C'est très, très impressionnant. Alors, on relit le verset 13 du chapitre 8. Et puis, je vis et j'entendis. Ce qui est intéressant ici, c'est que tu prends deux versions différentes. Il y a deux mots différents, mais ça parle de la même chose. C'est intéressant de voir, des fois, tu te poses des questions. Pourquoi une version dit un ange, puis l'autre dit un aigle? On va revenir là-dessus. Je vais vous lire les deux versions. La Osterval et la Louis II, 1910. Commencez par la Osterval. Puis, je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des trois anges qui doivent encore sonner. » Il est en train de dire, il y a sept trompettes, il y en a quatre qui ont déjà sonné, on est en train de regarder la cinquième, mais il dit qu'il va en avoir encore deux autres après. Il va en avoir sept. Louis II, 1910, lui, il dit, « Je regardais et j'entendis un aigle. » Au lieu d'un ange, lui, c'est un aigle. Alors là, il faudrait aller dans les... Pourquoi de rentrer dans l'inversion? On ne rentrera pas là-dedans matin. Là. Un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause des autres sons de la trompette des trois anges qui vont sonner. » Autrement dit. Alors, quatre anges ont déjà fait retentir leur trompette. Et l'apôtre Jean voit ici, il entend un aigle qui monte jusqu'au milieu du ciel. Ce qu'on appelle, quand vous allez regarder dans les commentaires, il parle du zénith. Un zénith, c'est l'endroit où on serait placé à peu près n'importe où à lac Mégantic. Ce serait l'endroit qui serait tellement au centre et le plus haut possible que tout le monde va le voir. Alors l'aigle, il va être placé à un endroit où il va être au zénith. Alors... Il veut être vu, le but, c'est d'être vu et de tous et de partout. Alors, le fait qu'il s'agisse d'un aigle, on ne rentrera pas dans les explications pourquoi un ange, pourquoi un aigle, mais je vous laisse regarder ça. Le fait qu'il s'agisse d'un aigle laisse présager un malheur, car l'aigle est un oiseau de proie. Dans Matthieu 24, au verset 28, on a ça. Alors, ça dit que sa voix est forte et claire. Alors, il crie, tout le monde entend, c'est fort, malheur, 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 puis c'est clair. Le sens de ses paroles est évident. Les trois prochaines trompettes sont pires que les quatre qui les ont précédées. Autrement dit, les malheurs qui s'adressent directement aux hommes, c'est pire que ceux qui s'adressaient à la nature. Pourquoi l'image de l'aigle est-elle utilisée? Ça, j'ai trouvé ça dans un article sur Internet. J'ai trouvé ça intéressant. Je vais vous le mettre sur ceux qui ont des feuilles. L'aigle a la vue 8 fois plus perçante que l'être humain. Ça voit clair, un aigle. Sa vision, associée à son agilité et à sa vitesse et à ses serres très puissants. J'ai déjà vu des images que même un mouton... Ça part à voler avec le mouton. Là. C'est... Les chiens, j'ai entendu parler à Sherbrooke, ouais. Du monde qui se sont fait enlever un chien comme ça par un aigle. Alors, ça fait de l'aigle un prédateur redoutable. L'expression « avoir un regard d'aigle » signifie avoir un esprit perspicace, clairvoyant et avoir une grande pénétration d'esprit. Pourquoi il utilise ces images-là de l'aigle pour parler des démons? Parce qu'ils vont avoir cette caractéristique-là, de voir puis d'identifier. Alors, l'aigle a souvent été choisi comme symbole par les empereurs. l'Empire romain, l'Empire aztèque, l'Empire de Napoléon, l'Allemagne, voire les États-Unis d'Amérique, actuellement sont représentés par un aigle. Dans le domaine militaire, l'aigle est l'emblème des corps d'élite, par exemple les guerriers aigles aztèques ou les aviateurs anglais de la Seconde Guerre mondiale. Très intéressant quand on fait le lien entre les caractéristiques de l'aigle et les caractéristiques des démons qui vont venir. Ils vont avoir ces caractéristiques-là. L'œil pénétrant, ils vont voir à qui ils ont affaire. Et ça les rend encore plus dangereux, comme on pourrait dire. Alors, les quatre premières trompettes, comme on se souvient, viennent frapper le monde. La terre, la mer, les eaux, le soleil, les lacs, les fleuves, la lune et les étoiles. Alors, les Écritures nous parlent dans Matthieu 24, toutes ces choses-là comme étant le commencement des douleurs. Ça dit dans Matthieu 24, verset 8. Mais tout cela, ici c'est le Seigneur qui est en train de parler des choses vers de la fin. Il dit, mais tout cela ne sera qu'un commencement des douleurs. Moi, je pense qu'on est direct dedans, là. On commence à rentrer dans le domaine des douleurs de l'enfantement, de la fin, des choses de la fin. Les douleurs suivantes, appelées des malheurs, frapperont les hommes eux-mêmes. Alors, on va étudier aujourd'hui le premier malheur qui va fondre sur les hommes, celui de la cinquième trompette. Ces malheurs sont appelés des appels de Dieu au monde inconverti. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire au monde inconverti par ces choses-là? Un appel à la repentance et aussi à la conversion, bien entendu. Et aussi un appel à l'Église pour nous. Quand ces choses-là vont arriver, il va y avoir encore des chrétiens sur la terre. C'est un appel pour nous réveiller. Un appel pour qu'on commence à veiller un peu plus. Un appel pour persévérer. Ça va devenir difficile, là. Quand le Seigneur va envoyer des jugements sur la nature, là, OK, ceux qui sont encore là, qui vont être des chrétiens, vont souffrir aussi, là. Alors, il va falloir qu'à ce moment-là, qu'on persévère, ça va nous prendre de la force. Et pour nous rappeler également que Dieu contrôle tout parfaitement. On vit dans des circonstances où on a vraiment intérêt à se rappeler que Dieu contrôle absolument tout de façon parfaite. On va regarder les versets 1 à 5. Et le cinquième ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui tombait du ciel sur la terre et la clé du puits de l'abîme lui fut donnée à cet ange. Et il ouvrit le puits de l'abîme et il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Et de cette fumée, des sauterelles se répandirent sur la terre, et on leur donna un pouvoir semblable au pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Et il leur fut dit de ne faire aucun mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur leur front. Et il leur fut donné, non de les tuer, mais de les torturer pendant 5 mois. Et leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique un homme. Je suis convaincu que si quelqu'un irait commencer à fouiller dans les livres de médecine puis qu'il regarderait le type de douleur qui est apporté par le scorpion quand il pique un homme, c'est sûrement quelque chose de très grand. Là. Alors, on va regarder les versets un par un. On va essayer de faire sortir le sens et les applications pratiques. Autrement dit, si on lit les Écritures, on fait juste lire un texte, qu'on passe par-dessus, ça a des applications très pratiques dans notre vie de tous les jours. Très intéressant le verset 1, quand ça dit, « Cinquièmement, je sonnai de la trompette, et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre, et la clé du puits de l'abîme fut donnée à cet ange. » Donc, à qui la clé est donnée? À un ange. Maintenant, si on fait... l'ange qui est tombé du ciel, si on fait un lien avec d'autres versets du Nouveau Testament qui nous parlent de qui est cet ange qui est tombé du ciel. On a dans Luc chapitre 10, verset 18, Jésus qui parle, il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Ésaïe, parce qu'il faut faire le lien, là, parce qu'on ne fait pas le lien, que c'est Satan, le maître des démons, qui reçoit la clé de Dieu, pas une clé physique, là, la clé, autrement dit, lui donne la possibilité de laisser sortir cette horde de démons qui sont enfermés actuellement dans l'abîme et qui ne travaillent pas actuellement à séduire les hommes et à leur faire du mal. Il y en a des démons qui sont sur la terre, mais ce n'est pas les démons qui sont enfermés dans l'abîme. Parce qu'il y a des, il y en a qui sont dans l'abîme, en tout cas, c'est ça, on va revenir là-dessus tantôt. C'est intéressant de noter que c'est vraiment Satan, parce qu'il y a deux versets, quand vous étudiez Satan en théologie, il y a deux versets classiques qui reviennent continuellement, c'est ces deux versets-là. Ésaïe 14, puis Ézéchiel 28. Facile à retenir, hein, c'est 14, ou 28. Alors, si vous retenez ces deux affaires-là, vous savez où aller les Écritures pour expliquer l'origine de Satan. Ésaïe 14, versets 12 à 15, ça dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, entre parenthèses, Lucifer? » Pour ça, aujourd'hui, il y a du monde qui sont des adorateurs de Lucifer, mais ils disent que Lucifer, c'est pas Satan. Le texte nous dit clairement que Lucifer, c'est Satan. Il dit « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, Lucifer, fils de l'aurore? » Comment as-tu été abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon, je monterai sur les hauteurs des nues. Ici, c'est la clé de sa rébellion. Qu'est-ce qu'il a dit? Je serai semblable au Très-Haut. Une créature qui veut se comparer au Créateur. C'est pour ça que ça chute. Alors, il dit, « Je serai semblable au Très-Haut. » Mais, ça dit dans le verset 15, « Mais tu es descendu dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau. » Autrement dit, tu es en train de dire, « Tu as voulu t'élever, te comparer à Dieu, devenir comme Dieu, mais tu as été précipité à terre. » C'est pour ça que le Seigneur disait dans Luc, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Quand vous regardez le symbolisme du satanisme, souvent vous voyez un éclair qui représente Satan. Ça représente exactement ça. Et dans Ézéchiel 28, versets 12 à 16 aussi. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr et dis-lui. Ainsi a dit le Seigneur l'Éternel, tu étais le couronnement de l'édifice, plein de sagesse, parfait en beauté. Tu te trouvais dans l'Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de pierres précieuses de toutes sortes, la sardoine, la topaze, la chalcédoine, le chrysolite, l'onyx, le jaspe, le saphir, l'escarboucle, l'émeraude et l'or. Les tambours et les flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Très important ici, il y a un mot-clé. Il parle de Satan puis il dit « pour le jour où tu as été créé ». Donc, une créature, puis le créateur, ça ne peut pas être la même chose. Je t'avais établi comme chérubin protecteur, aux ailes déployées. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu fus intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à ce que l'iniquité ait été trouvée en toi. Au milieu de ton riche commerce, ton cœur s'est rempli de violence et tu devins coupable. Je te précipiterai de la montagne de Dieu. Je te détruirai, ô chérubin protecteur, au milieu des pierres de feu. En train de décrire la chute de Satan, qui dit qu'un jour il va le détruire, parce que là on parle, on est dans l'Ancien Testament, on est dans Ézéchiel. Mais quand Jésus a dit qu'il voyait, c'est parce que ça se passait là. Et dans Jude aussi. Jude, chapitre 1, bien, il n'y a qu'un chapitre, mais versets 5 et 6. « Or, je veux vous rappeler, à vous qui l'avez su une fois, que le Seigneur, ayant délivré le peuple du pays d'Égypte, détruisit ensuite ceux qui ne crurent pas, et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres, pour le jugement du grand jour, les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. » C'est intéressant parce que quand on va dans les commentaires, on regarde, Ox et moi, lui, il voit trois sortes de démons. Il voit les démons qui appellent ceux qui étaient dans les déserts. Il voit les démons qui étaient là quand Jésus est venu, il y avait des démons sur la terre. Mais il voit aussi un petit peu les démons qui sortent de l'abîme comme étant un petit peu, comment on pourrait dire ça, c'est comme s'il y avait une armée, mais sa partie la plus forte est dans l'abîme. Du moins, la grande majorité des plus forts d'un démon sont dans l'abîme. Quand le Seigneur va ouvrir ça pour... ça sera pas beau, comme on dit. Alors, ça nous dit, des sauterelles se répandirent sur la terre, dans le verset 3. Cette invasion de démons est comparée au ravage des nuées de sauterelles qui détruisent absolument tout sur leur passage. Les nuages de sauterelles ne laissent que ruines, destruction et désolation. Puisqu'elles proviennent de l'abîme, elles ne peuvent être autre chose que des démons représentés sous forme de sauterelles qui envahissent la terre. Des sauterelles qui sont de l'abîme, normalement, les vraies invasions de sauterelles qui sont terrestres, ça ne sort pas de l'abîme. Alors ici, on parle de démons, mais avec une image, l'image de celle des sauterelles. Et Dieu accorde aux sauterelles, qu'on pourrait dire diaboliques, un pouvoir. Alors, ils ont le pouvoir de causer des douleurs atroces lorsqu'ils mordent. Ils symbolisent les attaques des forces démoniaques qui sont mortelles pour la vie spirituelle. Dieu leur accorde ce terrible pouvoir en guise de jugement. Quand il leur dit pouvoir faire à l'herbe de la terre, de pas toucher à l'herbe, de pas toucher aux arbres, seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire seulement les hommes qui ne sont pas régénérés, seulement les hommes qui n'ont pas reçu le salut, seulement les hommes qui ne sont pas des élus. À eux, ils vont souffrir terriblement durant cette période-là, parce que ça va être, autrement dit, le corps, l'armée de Satan, les pires ne sont pas sortis. Mais quand il va les laisser sortir, ça va être douloureux. Et ça dit, il leur fut donné. On voit la souveraineté de Dieu là-dedans. C'est pas Satan qu'une bonne fois, il est là, c'est bon, là, je vais prendre possession de mon. Il leur fut donné. Ça veut dire, c'est Dieu qui souverainement décide d'accorder à Satan le pouvoir de laisser sortir ses forces spéciales. Alors, il faut voir la main de Dieu là-dedans. Il leur fut donné. C'est pas Satan qui a décidé ça, là. Bien important de voir ça. Et dit, il leur fut donné. Puis là, aussi, on voit aussi l'aspect restrictif. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Parce que s'ils avaient laissé faire ce qu'ils veulent, ils auraient tout tué, fort probablement. Parce que Satan, c'est un meurtrier, puis Satan, c'est un menteur, puis il a tous les défauts du monde, tous les péchés du monde. Mais sûrement, si Dieu n'avait pas dit, tu n'as pas le pouvoir de tuer, il les aurait tués. Mais Dieu restreint leur pouvoir. Alors, il dit, non pas de les tuer, mais regardez le mot qu'utilise la Bible, torturer. Quand on parle que des gens sont torturés, disons, par des régimes politiques dictatoriaux, là, la torture, là, c'est quelque chose qui, ça fait bobo, comme on dit, là. Alors, pendant 5 mois, donc, une période limitée de temps, ça veut dire que le Seigneur limite le temps dans lequel ils vont pouvoir agir. Et ça parle de leur torture était pareille à celle qui cause les scorpions quand ils piquent l'homme. Celle-là, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je suis convaincu que quelqu'un qui va sur Internet, qui va dans les livres de médecine, pourrait trouver la description des douleurs qu'une piqûre de scorpion fait. Ça doit être terrible, j'en suis convaincu. Parce que ça dit, leur torture était pareille à celle que cause le scorpion quand il pique l'homme. Alors, quand il pique, apparemment que ça doit être très douloureux. Quelqu'un qui prend le temps de rechercher un peu, là, il comprend peut-être un petit peu plus la nature de ce qu'ils vont faire les scorpions. Bien, les scorpions, les démons. Alors, Dieu limite leur pouvoir et Dieu précise leur pouvoir. Ils sont commissionnés de Dieu de faire du mal aux hommes, non sauvés, c'est-à-dire s'ils n'ont pas reçu le sceau de Dieu. Et ils sont restreints à torturer, mais sans avoir la permission de tuer, et ils sont restreints dans la durée aussi, 5 mois. Alors, est-ce que c'est 5 mois symboliques, ou les auteurs ne s'entendent pas nécessairement là-dessus, mais ça n'a pas tellement d'importance, c'est de savoir que le Seigneur limite leurs affaires. Alors, le fléau de cette vision frappe un monde qui est livré aux tromperies et aux ruses de Satan et de son armée qui tourmente ce monde parce qu'il ne veut pas se soumettre à Jésus-Christ. Le tourment produit est de nature spirituelle, émotive et psychologique. Ce venin produit l'impiété, la corruption, la brutalité de la société, la violence, le cœur devenu insensible et la vie absurde et vide de sens. Alors, les hommes vont devenir comme ça, là. Ça va être violent, corrompu, brutal, et le cœur va devenir insensible, et ils vont souffrir au point qu'ils vont vouloir mourir. Mais la mort fuira loin d'eux. Le Seigneur ne permettra pas. Ils vont être obligés de l'endurer, leur douleur. Ils vont être obligés de se rendre compte de ce que Dieu veut leur faire prendre conscience. Alors, le fléau des sauterelles diaboliques a pour effet de garder les incroyants non scellés dans l'obscurité spirituelle et les force à réfléchir à leur état désespéré. Les angoisses et les anxiétés de leur âme les tourmentent. Ils sont maintenus dans une grande famine spirituelle, comme une dévastation de vraies sauterelles qui produit la famine physique. Les hommes sont accablés par leurs souffrances qui ne leur procurent pas la connaissance de Dieu, mais ne fait que les endurcir davantage dans leur ignorance. Alors, je vais marquer, M. Bédard avait écrit cette partie-là. Alors, ces douleurs vont trouver leur expression tant dans les vies individuelles des hommes de cette époque-là que dans les collectivités des hommes. Alors, l'idolâtrie, le nouvel âge, on sait, on est déjà dedans, les démons ont déjà influencé les gens dans toute cette affaire-là d'idolâtrie, de nouvel âge, d'occultisme, de magie, de sorcellerie, de système politique violent et corrompu, d'immoralité, de délinquance, de drogue, d'alcool, d'avortement, d'adoration du démon. Mais là, ça va être... Ça existe toutes ces affaires-là, je les nommé, là, sur la Terre actuellement, au moment qu'on se parle. Mais là, quand ces démons-là vont arriver, ça va être une amplification de tout cela à un degré tel que tous les êtres humains vont souffrir au point de vouloir... ils vont vouloir que la vie arrête. Ça ne sera pas une petite affaire, là. Alors, la période de 5 mois, c'est une indication qu'il y a encore du temps qui est accordé pour la repentance et la conversion. Alors, on va regarder le deuxième point, verset 6 à 11, Apocalypse, verset 9. Ça dit, « En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ne la trouveront point. Ils désireront de mourir et la mort les fuira. Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat. Il y avait sur leur tête comme des couronnes semblables à de l'or et leurs visages étaient comme des visages d'hommes. Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes et leurs dents étaient comme des dents de lion. Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes était semblable au bruit des chariots à plusieurs chevaux qui courent au combat. Elles avaient des queues semblables à celles des scorpions et à leur queue un aiguillon. Et leur pouvoir était de nuire aux hommes pendant 5 mois. Et elles avaient au-dessus d'elles l'ange de l'abîme, appelé en hébreu Abaddon, et dont le nom en grec est Apollyon, qui veut dire exterminateur ou destructeur. Alors, quelque part, Satan lui-même va diriger ces forces-là dans le but d'amener des douleurs intenses et atroces aux hommes. Alors, c'était intéressant de voir verset 6, quand ça dit qu'ils vont chercher la mort, puis ils la trouveront point. Ils vont désirer mourir, puis la mort va fuir. Alors, la douleur qui va être causée aux hommes par les démons sera très intense. Ils désireront la mort tellement, et la souffrance va être tellement intense, ils vont être amenés au désespoir. Quand tu veux mourir, là, à cause de la souffrance, c'est pas parce que tu souffres un petit peu, là. Tu souffres énormément. Mais ils n'auront pas le courage de mettre leur sinistre projet à exécution. Je pense que ça va être pour eux, Dieu va leur faire donner un avant-goût de l'agonie et des douleurs de l'enfer. ne sera pas très, très, très rose pour eux, là. Et les versets 7 à 10, on vient de les lire, utilisent des images pour parler de leurs caractéristiques. Alors, la vision utilise l'image d'une invasion de sauterelles. Nous trouvons dans le livre de Joël, si vous allez étudier ça, les chapitres 1 et 2, une prophétie dans laquelle le pays est envahi par un fléau de sauterelles dont la véracité... quand tu manges, là, je ne sais pas si c'est véracité, je pense que c'est... En tout cas, peut-être pas le bon mot. J'ai un dictionnaire biblique, je suis allé fouiller dedans un petit peu, juste pour voir qu'est-ce que la Bible dit sur le mot sauterelle. Alors, si vous allez dans l'article, alors vous avez un nouveau dictionnaire biblique, à page 1183, vous avez un article sur sauterelle, locuste et criquet. Je vais vous le lire parce que c'est intéressant de lire qu'est-ce que certains auteurs qui ont été témoins de ça dans l'Orient, comment ils décrivent cela. Alors, ça dit, je cite, « De vastes essaims de criquets migrateurs que les Orientaux appellent les armées de Dieu dévastent le pays. Ils marchent en ordre, comme un régiment. Le soir, ils s'abattent sur la terre et forment, pour ainsi dire, leur camp. Le matin, lorsque le soleil est déjà haut, ils s'élèvent et s'ils ne trouvent pas de nourriture, volent dans la direction du vent. Ces sauterelles se déplacent en troupes innombrables et forment un nuage, écoutez, ça va à peine d'être écouté, un nuage de 16 à 18 kilomètres de long. Ah, c'est de la sauterelle, ça, là. Si, et de long, 6 à 8 kilomètres de large. Si épais que le soleil ne peut les percer. Quand il arrive une affaire de même, là, c'est tellement épais là, que le soleil, ça cache le soleil, ça cache l'air, comme on l'a lu dans le texte. Ne peut les percer. Elles changent le jour en nuit et répandent les ténèbres sur la contrée. Il y en a qui ont vécu ça en Asie, en Afrique, ces choses-là. Ça dit, le bruit de leurs ailes est terrible. Lorsqu'elles descendent sur le sol, elles forment une couche de 40 cm d'épaisseur. Hey, c'est de l'épaisseur, 40 cm, c'est beaucoup. Si l'air est froid et humide, ou si elles sont mouillées par la rosée, elles restent là, jusqu'à ce que le soleil les ait séchés et réchauffés, rien ne les arrête. Elles remplissent les fossés creusés pour leur barrer la route. Alors les hommes ont pensé à une idée, on va leur faire des fossés, pour pas. Ils remplissent les fossés. Les insectes ils sont tellement nombreux qu'ils finissent par remplir les fossés. Ils remplissent les fossés creusés pour leur barrer la route, éteignent par leur nombre les feux allumés contre elles. Ils essayent de les bloquer par des feux, ils éteignent par leur nombre. Ils tombent sur le feu et ils l'éteignent. Je pense que le Seigneur est en train d'utiliser des images terrestres pour nous parler de quelque chose de spirituel qui va être l'équivalent de ça. Elles dévorent, elles escaladent les murs, entrent dans les maisons, par les portes et les fenêtres, elles dévorent toute la verdure, arrachent l'écorce des arbres et cassent même les branches par leur poids. Dans le langage figuré de l'Apocalypse, les sauterelles sont l'image d'un fléau surnaturel annoncé pour la fin des temps. Ces sauterelles sortent de l'abîme, ayant Apollyon à leur tête. Elles ne touchent pas la verdure, mais tourmentent les hommes qui n'ont pas reçu le sceau de Dieu sur leur front. Alors, ouais, peut-être on va faire un autre petit bout. Le pasteur et commentateur qui s'appelle William Hendrickson, dans son commentaire, donne, je pense, une bonne description, une bonne explication de ces passages-là. Voici ce qu'il dit. Puis, l'apôtre donne une description de ces sauterelles infernales. Leur ressemblance à des chevaux préparés pour le combat. Leur couronne, imitation or, présage leur victoire. Pour rien qu'ils ont une couronne, or, ça présage quelque chose, la victoire. Leurs visages, comme des visages d'hommes tournés vers la destruction. Leurs cheveux, comme ceux des furies. Leurs dents, comme celles des lions. Leurs cuirasses de fer, signe d'invulnérabilité. On parle de cuirasses de fer, ça veut dire qu'ils sont des démons invulnérables, ça veut dire que tu ne peux pas les vaincre. Le bruit de leurs ailes semblable à celui des chars à plusieurs chevaux qui courent au combat. On n'a jamais entendu ça, nous autres, des chevaux qui courent au combat que des chars. Mais ça doit mener un bruit extrêmement terrible. Alors, apparemment, c'est le bruit que ça fait quand ça se déplace, ces affaires-là. Enfin, leur piqûre de scorpion, extrêmement douloureuse, mais non mortelle, frappant les hommes de terreur et de désespoir, de sorte qu'ils cherchent la mort sans pouvoir la trouver. Image effrayante de l'œuvre des puissances des ténèbres dans les âmes des méchants, ici-bas. Ce sont des démons, dérobant aux hommes toute lumière, c'est-à-dire toute justice et sainteté, joie et paix, sagesse et intelligence. Leur roi est l'ange de l'abîme, dont les deux noms, tant hébreu que grec, signifient le destructeur. Ainsi, toute l'image met l'accent sur cette seule vérité, terreur et destruction, car c'est là l'œuvre de Satan. Alors, ce qu'on va faire, je pense qu'on va arrêter aujourd'hui là, et on terminera la semaine prochaine.